Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute!
Bonjour Sigrid et bienvenue sur le podcast.
Bonjour Hélène, merci de me recevoir.
Bah écoute, avec grand plaisir. Je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors Sigrid, tu es cofondatrice des Aidantes & Co. et tu es aussi la créatrice du podcast Plan Aidant. Alors de manière assez évidente, a priori, on va parler de ce que c'est que d'être une personne aidante. Donc une personne qui aide, qui accompagne, qui soutient un proche malade ou handicapé par exemple. Et pour compléter un petit peu cette rapide définition, j'aimerais bien commencer d'emblée en fait avec des précisions peut-être que tu pourrais apporter pour nous expliquer tout de suite en fait ce que ça veut dire que d'être une personne aidante et surtout ce que ça implique concrètement.
Alors, tu as raison, c'est hyper important de commencer par parler de ce mot « aidant » parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, être un aidant. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui le sont, aidantes, mais en fait, qui ne se reconnaissent pas dans ce mot. Alors, les aidants, ce sont des personnes qui accompagnent au quotidien quelqu'un qui est vulnérable. Donc, c'est comme tu l'as dit, on peut accompagner un proche qui est en train de vieillir, ou alors tu as ton conjoint qui a une maladie chronique, ou un enfant qui est porteur de handicap. Pour te donner mon exemple, moi, j'ai accompagné pendant 15 ans ma maman qui avait la maladie de Parkinson. Et tout en étant jeune maman, enfin jeune femme, jeune maman, et puis salariée à temps plein.
Hmm. Oui, c'est donc un cumul de casquettes qui c'est pas forcément évident de changer de casquette, de passer de l'une à l'autre. Et justement, toi, est-ce que ton parcours de vie t'a amené à arriver à t'engager sur ces sujets-là, parce que tu as identifié qu'il y avait des besoins auxquels il fallait répondre. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué en fait et qui t'a amené à cofonder des Aidantes & Co et le podcast notamment?
Alors en fait, moi concrètement, pendant 15 ans, j'ai accompagné ma maman sur tout ce qui était organisation, donc organisation de sa vie à elle, donc comment faire pour rester chez soi longtemps, comment faire pour organiser les rendez-vous médicaux, les auxiliaires de vie qui se déplacent et qui viennent plusieurs fois à domicile. Bon, j'avais une charge mentale incroyable. Et en fait, quand ma maman est décédée, j'ai fait une crise de sens, tiens-toi bien, comme beaucoup, et je me suis dit que quand même il y avait beaucoup de trous dans la raquette quand on est aidant. Et moi j'avais différentes idées pour pallier à différentes difficultés. Et notamment à celles qu'on rencontre quand on est salarié en entreprise, qui est est-ce que je peux le dire à mon employeur, comment ça va être pris et qu'est-ce qu'il peut faire, lui, pour mieux m'accompagner? Moi, à l'époque, je l'ai dit à personne que j'étais aidante. Alors, bien évidemment, je l'avais dit à mes amis, à mes proches et à mon amoureux. Mais au boulot, le plus longtemps possible, j'ai rien dit parce que j'avais peur d'être stigmatisée et j'avais peur aussi qu'on me donne plus les bons dossiers. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on soit si nombreux à taire cette réalité d'être aidant? On est 11 millions aujourd'hui en France à être des personnes aidantes et c'est un salarié sur cinq aujourd'hui qui est concerné et on sera un sur quatre donc en entreprise qui sera concerné par l'aidance.
Mais c'est énorme ces chiffres parce que ce qui est fou, c'est que ça a l'air effectivement méconnu, inconnu. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un au travail qui s'est déclaré être une personne aidante. Donc, on sent qu'il y a un genre de tabou, effectivement, ou peut-être une gêne l'annoncer. Et en même temps, les chiffres que tu annonces, ça représente une part hyper importante des salariés, en fait.
Ben c'est ça, et c'est ça qui est fou, c'est que c'est cette double prise de conscience à avoir, une que tu peux rencontrer tous les jours des personnes qui sont aidantes mais que toi tu t'en rends pas compte, et de l'autre côté d'avoir des personnes qui osent pas le dire, alors que qu'est-ce qu'il y a de plus naturel et de plus normal entre guillemets que d'accompagner son proche quand il va pas bien.
On peut comprendre assez facilement que on soit toutes et tous un jour concernés en fait par ce sujet-là, que ça soit bon classiquement j'ai envie de dire par ses parents vieillissants, mais il y a des personnes qui j'imagine accompagnent aussi des enfants malades ou handicapés, et du coup il faut effectivement faire quelque chose en tant que parent. Tu ne peux pas délaisser tes enfants qu'ont besoin d'aide. Il y a certainement plusieurs, il n'y a que des situations uniques, hein, je pense, face à ces sujets-là. Mais selon toi, c'est quoi quand même les principaux défis ou obstacles en fait que peut rencontrer une personne qui est aidante et salariée, donc qui cumule ces deux vies finalement, ces deux rôles?
C'est plusieurs choses. C'est comment faire pour concilier tes temps de vie, ta vie personnelle, ta vie professionnelle et puis ta vie d'aidant. Et puis, c'est aussi, est-ce que je peux le dire? Et comment ça va être perçu? Donc, tu vois, il y a une double problématique. Et puis, il y a aussi quand même le fait de dire que d'être aidant et le dire, ça doit être un choix. Ça doit pas être imposé. On n'est pas obligé de le dire qu'on est un aidant et on n'est pas obligé de choisir ce rôle d'aidant. Tu vois, il y a aussi différentes strates de niveau d'aidance qu'on peut avoir. Donc, par le biais de notre agence, les Aidantes & Co, nous, on va dans les entreprises pour conseiller les RH et les managers à mieux prendre en considération les besoins et les attentes de leurs collaborateurs aidants. Ce qui n'est pas évident parce que on peut te dire oui, mais moi j'ai pas très envie d'en parler avec mon collaborateur parce que c'est quand même sa vie privée. Et puis aussi, c'est le fait de dire, de l'autre côté, quand on est collaborateur aidant, j'ai pas besoin de le dire. Et en fait, ça fausse en fait la relation et ça peut créer des incompréhensions. Donc nous, ce qu'on dit plutôt, c'est à partir du moment où vous vous sentez prêt, dites-le à quelqu'un en qui vous avez confiance au sein de l'entreprise pour essayer de trouver des solutions.
C'est intéressant ce que tu dis parce que, et du coup je suis curieuse de savoir comment toi tu l'as vécu parce que tu t'évoquais la charge mentale, la gestion des rendez-vous, probablement aussi d'accompagner à ces rendez-vous, donc clairement il y a un paramètre temps, et comment on fait pour ne pas le dire et en même temps assumer ces temps-là qui forcément vont être en pleine journée. J'imagine mal des médecins donner des rendez-vous tard le soir ou le samedi et le dimanche. Donc finalement, comment ça se passe? Comment c'est possible que ça ne se sache pas, ça ne se voit pas, et en même temps, la place que ça prend dans la vie perso, mais qui déborde forcément sur la vie pro en fait?
Exactement, t'as très bien vu les choses, parce que effectivement, quand t'accompagnes ton proche à des rendez-vous médicaux, ou même juste le fait de t'isoler pour aller passer un coup de fil, pour prendre rendez-vous, ou insister pour qu'on te donne un rendez-vous ou une urgence à gérer, ça fait que tu dois t'absenter. Donc, soit tu le prends sur ton temps perso, tu poses des congés, tu te débrouilles. Tu t'entends avec tes collègues ou ton manager, et puis ça reste entre nous, et puis tu peux avoir un peu de temps pour accompagner ton proche, mais globalement, ça crée aussi une sorte de mécompréhension ou d'incompréhension de part et d'autre, parce qu'un collègue qui te voit partir en urgence ou qui te voit partir plus tôt un soir va bien se demander ce qui se passe. Donc nous, on pense qu'il vaut mieux être transparent et qu'à partir du moment où tu peux communiquer en confiance avec ton manager ou ton employeur, c'est très bien. Surtout qu'il existe des solutions. On n'est pas tout seul en fait dans l'entreprise à vivre ça, et on n'est pas tout seul parce que tu vois, le droit du travail, les RH ont des solutions à proposer.
Comment tu faisais, toi, du coup? C'était justement ce que tu disais, poser des... entre guillemets, griller tes congés pour pas... Enfin, comment dire? Tu grillais des congés pour t'occuper de ça, et du coup, forcément, t'en as plus pour des vacances. C'est du sans solde? Parce que l'impact, il est énorme, en fait, après, derrière.
Il est énorme, parce que tu vois ce qui est en jeu. C'est qu'à partir du moment où tu poses des congés payés ou du congé sans solde pour accompagner ton proche, en fait, tu t'épuises, parce qu'il n'y a pas de moment où tu peux avoir du répit et du temps pour toi. Donc, il faut aussi prendre en considération ce problème, qui est l'épuisement et la fatigue que tu ressens quand tu es aidant et que tu essayes de tout gérer en même temps et de compenser. Parce que, par exemple, tout le monde a envie de bien travailler et d'être loyal envers son employeur. Donc, qu'est-ce que tu fais? En fait, quand tu pars un peu plus tôt pour accompagner ton proche à un rendez-vous, par exemple, tu vas compenser. Tu vas compenser en travaillant plus le soir ou le week-end. Et du coup, t'en as toujours plein la tête. À aucun moment, tu peux te reposer. Et c'est là où on dit aux employeurs... là, vous avez un rôle à jouer. C'est-à-dire, le premier pas, c'est super d'avoir une entente avec ton employeur qui va te dire oui, bien sûr, prends le temps qu'il te faut, tu feras ton boulot à un autre moment. Mais en fait, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de prévoir et de dire voilà. Aujourd'hui, il y a différentes possibilités comme aménager ton temps de travail, avoir des horaires plus souples pendant un temps donné. Je te dis pas ad vitam aeternam, parce que là, on arrive dans d'autres dispositifs possibles. Mais en tout cas, que tout soit indiqué et que tout soit écrit pour que on puisse vivre mieux nos différents temps de vie et de travail aussi.
C'est intéressant parce que une de tes missions, du coup, c'est d'inciter les entreprises et les employeurs, les managers à mettre en place ce genre de dispositif, ou en tout cas de permettre l'aménagement des horaires, des emplois du temps, etc. Mais je me demandais, est-ce que ça, c'est simplement de la volonté de l'entreprise, ou il y a quelque chose qui est prévu par le droit du travail? Parce qu'on pourrait imaginer quand même que le droit du travail français prévoit quelque chose pour toutes ces personnes aidantes qui sont salariées. Et moi, il me semblait avoir vu, mais je suis preneuse d'infos et que tu complètes, qu'il existe un congé pour proches aidants. Et du coup, j'aurais bien aimé que tu nous expliques ce que c'est.
Alors, effectivement, il y a plusieurs congés qui sont prévus. Alors, tu as le congé de solidarité familiale, tu as le congé, le fameux congé proche aidant. Et en fait, le congé proche aidant permet à l'aidant donc de prendre du temps pour soi, de sortir en fait de l'entreprise tout en restant dans l'effectif, et d'accompagner son proche. C'est un dispositif qui est renouvelable et qui est indemnisé par la CAF. Mais c'est une grande avancée juridique d'avoir un congé proche aidant, mais pour l'instant, il n'est pas assez, il n'est pas rémunéré, si tu veux, il n'est pas rémunéré à la hauteur de ton salaire. Si bien que les gens n'ont pas très envie de le prendre, ce congé, parce que, en fait, tu prends un congé, mais tu vas t'appauvrir quand même. Donc, il y a cette notion de dire, bien sûr, c'est bien, on commence à être écouté par les pouvoirs publics et la prise en considération des aidants commence à être importante. Et il fallait bien commencer par quelque chose. Le congé proche aidant, c'est un bon début. Mais je dirais qu'on pourrait réfléchir à d'autres dispositifs qui seraient encore plus intéressants pour les aidants.
Tu penses à quoi, par exemple?
Je pense, par exemple, tu vois, le congé proche aidant qui est indemnisé, je pense que l'employeur, il pourrait abonder pour que les personnes aient la totalité de leur salaire pendant un temps donné. Ça, ce serait une avancée.
Mais oui. Oui, comme ça incite plus, effectivement, à se dire, allez, je prends ce congé parce que j'ai du temps pour m'occuper de mon proche, mais en plus de ça, je perds pas en rémunération. Rémunération, j'imagine, qui est quand même importante. Bon, déjà de base pour le quotidien de n'importe quelle personne, mais j'imagine que quand tu es aidant ou aidante, t'as peut-être aussi toi ton porte-monnaie qui est impacté. Est-ce que ça, c'est aussi une conséquence? Tu vois, quelque chose que subissent quelque part les personnes aidantes. Est-ce qu'il y a des aides pour couvrir, tu vois, certains frais? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Bah en fait, là aussi, tu vois très bien les choses. C'est que les aidants, on sait que ce dont ils ont besoin, c'est de temps et de temps pour s'occuper de leurs proches. Et aussi, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent parce que ils ont besoin de continuer de travailler d'abord pour avoir un salaire et pouvoir continuer de vivre, et puis aussi pour s'occuper de leurs proches. Moi, je vois trop d'aidants qui arrêtent, en fait, qui n'ont pas d'autre choix que d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs proches. Et quand tu leur parles, tu te rends compte que en fait, ils se sont appauvris. Parce que arrêter de travailler, en fait, c'est peut-être pas une solution. C'est de nouveau, il faudrait qu'on ait le choix, quand on est aidant, de continuer de travailler ou pas, et de s'occuper de son proche en parallèle.
Oui, finalement, c'est subi. Bon, se retrouver avec un proche vulnérable qui a besoin d'être aidé, d'être accompagné, évidemment que c'est subi. On ne choisit pas ces incidents de vie. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que du coup, il y a d'autres conséquences qui sont pour la plupart subies. Et du coup, tu t'appauvris, peut-être que tu deviens un peu isolé. Est-ce que si tu arrêtes de travailler, j'imagine qu'après, ça peut être compliqué de retrouver du boulot. Donc en fait, il y a un enchaînement d'impact assez négatif finalement sur les personnes aidantes.
Et oui, et c'est bien pour ça que moi je travaille sur ce sujet, parce que pour moi d'être un aidant, c'est super positif en fait. Tu peux voir ça d'un autre prisme. Moi je le vois sous le prisme positif, sous le prisme c'est beaucoup d'amour qu'on partage avec son proche. Je ne nie aucune difficulté qu'on rencontre quand on est aidant, mais ça te transforme tellement que tu peux en sortir plein de choses positives, que ce soit pour toi personnellement qu'au niveau professionnel. Je te donne un exemple. On a un tas de chacun de compétences et de qualités qu'on met à disposition de notre employeur. Et quand on est aidant, on développe des compétences, tu vois, tout à l'heure par rapport à ce que je t'expliquais. Moi, je suis devenue un super chef de projet. C'est-à-dire d'organiser, je pourrais faire un Excel avec, en organisant les rendez-vous pour ma mère, l'enchaînement des différentes personnes qui viennent, comment tu fais pour gérer aussi les finances. Je suis un super chef de projet. Et puis, en termes de qualité, tu développes aussi des qualités comme par exemple la patience ou la gestion des conflits, parce que tu es tout le temps en train de gérer des mini-conflits, soit avec ton proche parce que il a pas envie ou il veut pas de la solution que tu lui proposes. Donc, il faut savoir négocier et bien écouter avec de l'empathie ce que vit l'autre. Et puis, tu apprends aussi la résilience. C'est assez évident. Et ça, tu vois, c'est tout à fait des compétences et des qualités que tu peux aussi, que tu peux transférer dans l'entreprise. Et nous, ce qu'on dit, c'est les compétences et les qualités que tu as développées en tant qu'aidant. Les employeurs recherchent ces compétences et ces qualités et tu pourrais très bien l'écrire sur ton CV et te présenter devant un employeur en disant que tu es tout à fait capable soit d'évoluer dans ton poste, soit de trouver un job qui correspond à tes compétences et à tes qualités. C'est aussi, tu vois, une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast qui s'appelle Plan A, Plan Aidant. Je l'ai appelé comme ça parce qu'en fait, quand tu es aidant, tu n'as pas de plan B. Tu es toujours en train de t'adapter à des nouvelles situations. Et mon objectif, c'était de faire témoigner plein de gens différents, parce que c'est ce que tu disais, en fait, on est 11 millions avec des profils et des vies différentes, et de faire témoigner des aidants sur ce qu'ils ont appris et sur ce qu'ils peuvent transmettre, eux, comme, je sais pas, comme trucs et astuces, comme grosses galères qu'ils ont transformées en positif, et aussi faire témoigner des personnes qui sont salariées et de les faire témoigner sur comment tu vis ça dans ton entreprise, comment tu l'as fait mieux percevoir aussi par ton employeur et aujourd'hui comment tu fais pour le vivre. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois que tu as raison, ça dépend du moment de vie dans lequel tu es, mais tu sais aussi que tout ça, tu peux le transformer en quelque chose de positif. Et les employeurs aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, sont plutôt en recherche de personnes qui vont aller rechercher des solutions quand ils ont un truc qui tombe, un problème. C'est beaucoup plus agréable pour un employeur d'avoir un salarié qui vient en disant « moi j'ai tel problème, mais j'ai trouvé des pistes de solutions ». Plutôt que quelqu'un qui va venir uniquement avec un souci. C'est pour ça que je te disais que il y a quand même beaucoup de compétences qu'on peut faire valoir au sein de son entreprise.
Simplement pour revenir sur ton podcast, comme tu l'évoques, donc j'ai écouté quand même plusieurs des épisodes et d'ailleurs je le trouve vraiment chouette. Et alors qu'on soit proche du sujet ou pas, ça permet de découvrir justement toute cette thématique là et puis il y a des témoignages vraiment vraiment touchants. Je vais te poser cette question parce qu'on est quand même sur un podcast écoféministe. En écoutant plusieurs épisodes, j'avais quand même le sentiment que c'était beaucoup de femmes qui témoignent à ton micro et je me suis forcément demandé et j'ai envie que tu répondes à ça, est-ce que les personnes aidantes sont majoritairement des femmes? Qui sont ces personnes aidantes? Il y en a 11 millions, mais c'est qui? C'est 11 millions de femmes? C'est comment ça se répartit?
Alors, je te le donne dans le mille. Bien évidemment, je ne rencontre que des femmes qui viennent me parler du sujet. Alors, je pense qu'il y a de la sororité, des personnes que je rencontre. Et j'ai aussi appelé ma boîte Les Aidantes & Co, parce que Marina et moi, on est toutes les deux des aidantes. Et parce qu'on voulait faire discuter, justement. Alors, les stats disent que il y a 56% de femmes qui sont des aidantes. Donc, en fait, on a envie de dire, mais c'est chouette, c'est du 50-50, presque. On serait à égalité hommes et femmes pour accompagner son proche. Mais en vérité, tu as quand même une grande majorité de femmes qui vont s'occuper de leurs proches qui vieillissent. Quand tu t'occupes de tes parents, c'est plutôt la femme qui va s'y coller. Et ça, on le ressent moins, par exemple, pour les enfants qui sont porteurs de handicap. Alors, c'est aussi une génération et puis la société qui avance. Les hommes et les pères en parlent de plus en plus de leur situation d'aidance. Mais dans les faits, c'est quand même effectivement les femmes qui sont concernées, et c'est bien la raison pour laquelle j'ai appelé, avec Marina, on a appelé notre agence Les Aidantes & Co, parce que ça fait pas de doute, en fait, on est beaucoup de femmes concernées, et puis beaucoup de femmes à oser en parler.
Tu as parlé un petit peu de solutions déjà, et de choses à envisager. Est-ce que tu peux quand même nous donner quand même quelques tips sur comment concilier vie pro et vie perso quand on s'occupe d'une personne vulnérable, notamment pour savoir se préserver, en fait, prendre soin de soi d'abord quand on prend soin de l'autre pour que ça tienne?
Alors, pour que ça tienne, je dirais que déjà, il ne faut pas rester tout seul. Les aidants, ils ont tendance à s'isoler parce qu'ils ont tellement de choses à faire que c'est le premier risque. Donc, moi, la première chose que je peux dire, c'est ne restez pas seul par rapport à ce que vous vivez. Il y aura toujours une solution quelque part ou une piste de solution. Et effectivement, tout ne vient pas à soi facilement, mais il y a des solutions. Et de la même manière, quand on cherche à concilier ses temps de vie quand on est salarié, de la même manière, il y a des pistes de solutions. Trop souvent, j'entends des personnes qui me disent « Maintenant, mon employeur n'aura rien à me proposer. De toute façon, il ne va pas m'écouter. Je ne vois pas l'intérêt de lui en parler parce que je vais être mal vue, etc. » Mais ça, finalement, c'est l'image qu'on se fait et c'est… Comment dire, c'est une image qu'on se fait et puis c'est la petite machine qui tourne dans sa tête. Mais si on a confiance envers quelqu'un dans l'entreprise et quelqu'un de clé, alors que ce soit ton manager, ton DRH ou quelqu'un, peut-être un collègue qui vit la même chose que toi, il faut pas hésiter à aller en parler.
Oui, c'est important de s'entourer, de s'ouvrir un petit peu pour s'apercevoir que finalement on peut trouver quand même de l'aide et du soutien auprès de proches, mais aussi auprès de l'entreprise, quoi, de l'employeur, de ce collègue.
Exactement. Et ce qu'on dit aussi, c'est il faut rester factuel. Tu n'es pas obligé de raconter ta vie, surtout que bon, c'est quand même des moments c'est quand même des moments de vie personnels et intimes. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails parce que de toute façon, la plupart ne vont pas comprendre exactement ce qu'on vit. En revanche, de rester factuel et d'expliquer sa situation, ça se prépare. Hein. Nous, on prépare aussi les aidants quand ils ont des entretiens avec leur manager ou avec leurs employeurs, quand ils veulent justement en parler. Il faut préparer. C'est comme quand tu prépares un entretien d'évaluation ou quand tu as envie d'évoluer professionnellement. C'est pareil. Il faut partir du principe qu'il y a un effet miroir. Que la personne en face de toi, elle va se prendre en pleine tête ce que tu vas lui raconter. Donc, il faut aussi savoir communiquer, oser dire déjà, et savoir communiquer ce que tu vis et ce dont tu as besoin.
Oui, non, c'est intéressant de pouvoir sensibiliser les employeurs, les managers, mais au final accompagner aussi les salariés, les personnes aidantes à oser dire, à savoir dire. C'est hyper important parce que c'est ces personnes-là qui doivent d'abord décider, comme tu le disais, si elles en parlent ou pas. Et donc c'est intéressant d'avoir cette double approche quelque part. Je me demandais aussi quelle solution toi t'avais en tête ou t'aimerais voir apparaître pour lutter contre l'appauvrissement en fait des salariés dont tu parlais tout à l'heure dans le cas où les personnes sont contrainte finalement d'arrêter de travailler ou de travailler moins. Et comment on lutte contre ça et les éventuelles discriminations aussi qui peuvent exister à leurs égards.
Alors pour lutter contre l'appauvrissement, je dirais d'abord qu'il faut avoir le choix. Il faut avoir le choix de continuer de travailler ou pas. Ça déjà, ça me semble essentiel. Après, on peut aussi, alors je ne pourrais pas rentrer dans les détails vraiment du côté vraiment administratif, mais il y a aussi des aides sociales que tu peux solliciter justement pour moins t'appauvrir. Donc tu peux te tourner vers l'assistante sociale, vers ton CCAS, enfin tu vois, vers les structures qui en fait vont chercher et surtout qui ont l'information de savoir ce qu'ils peuvent te proposer pour compenser en fait ta perte de salaire par exemple. Après, il y a aussi des aidants par exemple, quelqu'un dont le proche décède, je pense à, tu vois, une maman qui s'est arrêtée pendant 10 ans de travailler et son enfant malheureusement décède, les aides vont s'arrêter du jour au lendemain et elle va être obligée, entre guillemets, de chercher et de trouver un emploi au plus vite. Là aussi, je pense qu'il y a une aide à trouver. pour qu'on t'aide concrètement à retrouver du travail. Ça veut dire passer par les étapes de la personne qui dit « bah non, mais moi, je sais rien faire ». C'est faux, en fait. Bien évidemment, que ce que je te disais tout à l'heure sur tu as développé des compétences que tu peux tout à fait mettre à disposition d'un employeur. Donc, accompagner ces personnes vers un retour vers l'emploi, ça me paraîtrait essentiel. Aujourd'hui, il y a des structures qui s'occupent de cela, mais je trouve qu'elles sont pas assez nombreuses. Et après, quand on parle d'appauvrissement, tu vois, je pense à tous les faux frais, les frais cachés. Par exemple, en moyenne, ton proche vit à 220 km de chez toi. Donc, t'imagines bien que ça demande du temps et de l'argent pour te déplacer, par exemple, pour organiser tes déplacements. Et ça, pour l'instant, personne ne le prend en compte. Là aussi, tu vois, là, j'ai pas de solution à proposer, à part de voir un peu comment tu peux mieux organiser ton quotidien et les déplacements pour pas avoir tout le temps à faire des allers-retours, par exemple.
C'est intéressant parce que moi, évidemment, ça me fait penser tout de suite au travail domestique gratuit, majoritairement effectué par les femmes. Et quelque part, on se dit, mais ces personnes aidantes qui sont certes salariées ou alors contrainte de faire une pause dans l'emploi, enfin, quand bien même, salariés ou plus salariés, elles ont un rôle d'aide à domicile, de taxi, de secrétariat, de... enfin,
exactement.
C'est quand même hallucinant de constater qu'il y a, au même titre que le travail domestique gratuit, et ben en fait on se retrouve à être voilà à travailler gratuitement pour aider ses proches alors que ça pourrait peut-être être effectué je sais pas, il faudrait peut-être qu'il y ait un service public aussi mieux structuré et plus fourni pour que on ait plus facilement accès à de l'aide aussi de tierces personnes par exemple. T'en penses, enfin comment tu vois les choses toi par rapport à ça?
Je pense que toutes ces personnes qui ne travaillent pas et pour s'occuper à 100% de leurs proches, effectivement, souvent, elles n'ont pas le choix parce que tu n'as pas d'aide à domicile. Tu n'as pas quelqu'un qui peut venir prendre la relève pour organiser à la maison ce qui se passe. Et effectivement, c'est pas payé quoi. C'est-à-dire que la personne elle va pas cotiser pour sa retraite et puis ça arrange bien aussi nos pouvoirs publics parce qu'en fait eux-mêmes n'ont pas les moyens de payer aussi pour que une personne soit accompagnée par un tiers. Tout ça c'est un jeu. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un jeu, c'est un problème de circuit. Il n'y a pas assez d'aide à domicile, il n'y a pas assez de personnel au niveau médico-social pour s'occuper de ton proche. Donc, bah, comment tu fais? Bah, c'est bien le proche qui va devoir s'en occuper. Et tout ça à titre gratuit. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. On a aujourd'hui un énorme problème soulevé qui est d'un côté ces aidants qui sont finalement empêchés de travailler, en tout cas ceux qui ont décidé mais d'arrêter pour s'occuper de leurs proches, et de l'autre côté ce problème aussi de recrutement dans tous ces métiers qui est de l'accompagnement de vie pour lequel on ne trouve pas à embaucher.
Oui.
Donc tu vois, si on remonte un peu le fil, bah en fait il y a un problème plus global qui se pose parce que la population est en train de vieillir, on n'a pas assez de professionnels autour de nous pour s'occuper de nos proches qui vieillissent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on faire? Et là tu vois, je sors un petit peu quand même du sujet de l'aidance sur le sujet de comment on va faire pour bien vieillir et prendre en charge les coûts qui vont être attachés à ça.
Ce qui me choque dans ce que tu dis, parce que je ne l'avais pas en tête avant qu'on prépare l'épisode, c'est justement ce sujet de la retraite, parce qu'effectivement, si tu t'arrêtes de bosser pour t'occuper d'un proche ou d'une proche, évidemment que tu ne cotises pas pour ta retraite. Donc, en plus de t'appauvrir sur le moment, tu t'appauvris aussi pour plus tard. Donc, toi-même, quand tu vas vieillir et bénéficier de ta retraite, tu pars avec un déficit énorme. Et si toi-même, tu as besoin d'aide, enfin, du coup, je suis en train de me perdre dans un tourbillon de...
Ne te perds pas, Hélène. Je suis sûre que ça va évoluer. Il y a quand même des pistes. Enfin, les gens sont assez nombreux là quand même à dire que tout ça c'est pas normal et tout le monde est en train de. Enfin, nos pouvoirs publics sont en train de réfléchir là-dessus. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a rejoint le collectif Je t'aide, qui est un collectif de structures autour de l'aidance, qui en fait porte un projet de plaidoyer de comment on fait pour faire évoluer justement positivement les choses pour que les besoins et les attentes des aidants soient mieux prises en considération.
Oui, il y a des solutions quand même et des choses qui se mettent en place, heureusement. Et du coup, pour compléter, c'est justement la question que je voulais te poser peut-être pour finir et pour conclure. C'est bon, tu parles de ce collectif, mais est-ce que tu aurais aussi du coup des ressources, d'autres assos ou collectifs à recommander ou des contacts? Qui peuvent voilà, apporter du soutien, des solutions aux personnes qui sont aidantes et puis notamment salariées aidantes. Qu'est-ce que tu peux recommander?
Alors, je te dirais d'une, si tu veux rejoindre, si tu es aidant et que tu es actif, si tu veux rejoindre une communauté positive et puis d'entraide et de soutien, nous, on a créé une communauté qui s'appelle Aidant et Bien Plus, sur laquelle, en fait, on met en avant la paire aidant. C'est-à-dire que moi, je sais pas quelque chose, mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui va savoir me donner le coup de pouce ou l'info qui me manque. Et c'est vraiment de l'entraide au quotidien, donc sur différentes problématiques, et on organise aussi des ateliers pour reprendre confiance en toi, des ateliers bien-être, et puis aussi pour essayer d'apprendre aux gens à concilier leur temps de vie, justement. Après, je pense à un autre site internet qui s'appelle Ma Boussole Aidant, qui est en fait un gros moteur de recherche sur lequel tu peux trouver, tu vois, Ma Boussole Aidant, en gros, quand t'es perdu, tu vas sur ce site et on va te donner des informations et des conseils en fonction de ta situation. Et puis aussi, ça te permet de localiser par rapport à l'endroit où habite ton proche, les différents services à domicile qui existent, les différentes aides que tu peux avoir. Donc, je trouve que ce site est très bien fait. Et je te dirais pour terminer un troisième qui s'appelle Avec nos proches. Avec nos proches, c'est une association qui a une ligne d'écoute. Alors c'est pareil, t'as des aidants ou des anciens aidants au bout du fil avec qui tu peux échanger. Donc ça, c'est un bon moyen quand tu te sens pas bien et que la charge est trop lourde. Ça te permet d'échanger avec quelqu'un par téléphone sur tes problématiques, et ces personnes aussi peuvent t'orienter vers d'autres services.
Bon, c'est top. Et ça fait plein de ressources à consulter, donc on mettra évidemment tous les liens qui vont bien en description de l'épisode, et puis ça permet de finir sur des solutions et des perspectives optimistes après avoir bien déblayé le sujet de l'aidance. Merci beaucoup Sigrid du coup pour tous tes éclairages et de nous avoir partagé un petit peu tout ce que tu fais avec les Aidantes & Co.
Merci beaucoup Hélène.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.